Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch en ce début de saison régulière, hein, parce que Cinébrunch a pris congé pendant un certain temps. Les voix que vous entendez, ben, mon nom est Jim Boulay pour commencer. Je suis en compagnie de Mélina Lopez-Nadeau et François Genet.
Bonjour.
Bonjour. Habituellement, la saison passée, on le disait en même temps, c'était un peu chaotique.
Ah, ouais. Ah oui, là, on est n'était pas prêts. Ouais.
On est plus disciplinés. Ouais. On a appris.
Ben, content de vous revoir.
Ça fait drôle.
Ah, aussi, oui, ouais. Ah, ouais. Tout à fait. Après, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Et content de retrouver nos auditeurs aussi pour ce 95e épisode de Cinébrunch.
On est rendu là. On est rendu là.
L'air de rien, on s'approche tranquillement du centenaire.
Oui, c'est ça. Ça doit être le mal dans mes genoux. Ça doit être ça. C'est toujours ça.
C'est probablement ça.
Vous allez voir, on va devenir de plus en plus chialeux avec les films qu'on écoute.
Oui, exactement. C'est ça. On va juste écouter des films.
Ça se peut que ça fasse ça en plus. Ça se peut que c'est triste.
Il n'y a pas beaucoup d'action, ou confort à s'endormir et pouvoir repenser à notre âge vénérable.
Bon, mais en attendant, on a quand même des belles choses qui vont arriver cette saison-ci pour disons, Cinébrunch. On ne vous dira rien pour l'instant, mais en gros, il y a des grosses affaires qui s'en viennent. Et François n'y est pas pour rien.
Ça, c'était presque une phrase, Jim. Oui, tout à fait. Là, les gens ne savent pas. Ils savent que je suis impliqué dans l'affaire, mais ils ne savent pas trop ce qui se passe. Fait que, tu vois, ça rend encore plus... Le mystère est là. Le mystère est là. C'est ça qu'on veut au final.
Oui, puis tu vois, je me rends compte que le temps passe vraiment très vite parce que 95, ça s'est fait à une vitesse incroyable à raison d'un épisode par semaine.
Pendant presque 2 ans, oui.
Ah non, pas de faire. J'ai commencé à parler. Oui. François n'avait pas de moustache.
Et là, là.
Non, c'est effrayant.
Ouais.
Alors voilà, et là, évidemment, vous entendez François. Si vous avez commencé à écouter Cinébrunch dans les derniers mois, vous trouvez peut-être que François Genet a une drôle de voix, puis c'est assez normal parce que c'est pas le même. Et je veux prendre quelques secondes de votre temps, hein, pour remercier François Bertillon, mais Vicky Langlois qui ont pris le relais pendant tout l'été, qui ont fait un excellent travail. François Bertillon qui anime justement une émission sur le cinéma à l'antenne de CFAQ. On aura d'ailleurs probablement la chance de l'avoir avec nous et peut-être Vicky aussi la semaine prochaine pour jaser de leur été, faire un petit débriefing en onde de comment ils ont trouvé l'expérience. Et bref, ça peut être vraiment intéressant, donc on verra si tout ça est possible ou non. Sinon, cette semaine, nous aussi, on a fait des choses et on a regardé des films pendant l'été et on va vous en parler un peu plus tard dans l'émission en deuxième demi-heure. Mais d'ici là, on a tous vu des films, on va critiquer des films pour vous. Mélina, toi, de ton côté, t'es voir l'un ou
le premier.
Le premier.
Le premier, oui, oui.
Premier
oui.
film YouTube Original à être présenté au cinéma.
Oui, exactement. J'ai hâte de vous en parler. C'est un film quand même d'action. Donc, on parle d'un vol qui s'est fait au Mexique, un vol d'œuvres d'art. Oh. Donc, c'est super intéressant, basé sur une histoire vraie. Et je pense que ça va donner lieu à plusieurs discussions intéressantes par rapport à ça.
Intéressant, peut-être un Ocean Eleven version latino.
Dans le genre, exactement.
Et en un mot, parce qu'on essaie des nouvelles choses à Cinébrunch cette saison-ci. Et en un mot, Mélina, résume-nous le film que tu as été voir.
Innovateur.
Innovateur.
Oh.
Bon, c'est bien.
On pourrait dire aussi innovateur, parce que innovateur, hein,
c'est la même chose.
Oui, tout à fait, exactement. Beaucoup de lettres qui veulent dire la même patente.
Et toi, François, oui. t'es retombé en enfance, t'as été voir Dora.
Oui, exactement. Oui, une enfance quand même... mais qu'il n'y avait pas tant Dora que ça, mais j'en reparlerai plus. Oui, j'étais allé voir Dora et la Cité d'Or perdue, comme mon enfance perdue. exactement. Et voilà, donc c'est ce que j'étais allé voir pour vous.
Et en un mot,
je dirais plus énigmatique. On va voir à qui s'adresse ce film.
Oui, j'ai hâte d'en entendre plus. J'ai vu la bande-annonce, puis ça pique ma curiosité.
Oui, tout à fait.
C'est tout ça est bien intéressant. Et de mon côté, moi aussi, j'ai été voir un film. Moi, j'ai vu Ibiza, un film français. Et en un mot, je dirais... Aquatique.
Que ça coulait. c'est ça qui arrive.
Peut-être.
Ah, on sait
je vous en parle dans quelques minutes, honnêtement, ça ne sera pas très long. Bref, on vous présente notre critique de ces films dans quelques minutes, mais en attendant, quelques nouvelles, Mélina.
Oui, en fait, ben moi, j'ai pas vraiment de nouvelles, mais j'ai écouté plusieurs films cet été. Hein. Cinébrunch a fait relâche. Ben, je veux dire, nous, on a fait relâche. Cinébrunch n'a pas fait relâche.
Cinébrunch a continué. Oui,
exactement. Mais mon écoute de film a pas cessé. Donc, j'ai décidé de vous parler du film qui m'a le plus marqué pendant mes vacances, que j'ai envie de recommander parce qu'il est encore sur Netflix. C'est le film Kramer versus Kramer, Kramer contre Kramer, qui est un film qui était sorti en 1979. C'est avec Dustin Hoffman et Meryl Streep, qui un film qui a remporté comme 5 Oscars. J'ai vraiment aimé ce film-là. Et ce qu'on aime vraiment dans ce film-là, c'est la justesse des performances des acteurs qui sont extrêmement nuancés et qui nous donnent vraiment une performance extraordinaire. J'ai décidé de commencer à écouter des vieux films de Meryl Streep pour voir un peu qu'est-ce qu'elle a fait dans ce jeune temps. Donc, je vous le conseille. Il est encore sur Netflix. C'est une histoire, on aborde des thèmes simples. C'est une question de divorce entre deux parents. C'est très intéressant. Et il y a des scènes où Dustin Hoffman carrément improvise des trucs, mais qui garde au montage. Donc, c'est intéressant d'avoir ça aussi en tête.
Ah ouais, ça, c'est le fun.
Parce qu'à un moment donné...
Pas tout le temps, mais...
Oui, non, des fois,
quand c'est bien réalisé, c'est le fun.
Oui, non, mais c'est qu'à un moment donné, dans une des scènes, je vais pas rien divulgacher, mais ils sont au restaurant, il prend un verre et il lance à côté de sa face. Le verre explose à côté de sa face à elle. Mais c'était pas prévu. Elle savait pas qu'il allait faire ça.
Oh. Ben voyons.
Donc, wow. Ça a l'air qu'elle a peut-être pas tant trippé à travailler avec lui à cause de choses comme ça.
Ben, je peux comprendre.
Mais c'est ça. Donc, c'est...
Ça surprend. Le go aussi,
ouais.
On a dû faire le saut, hein, s'il vous plaît.
Ouais,
le
ouais,
gros
ouais.
Accessoires aussi.
Oui, c'est ça.
Qui a dû faire mon verre. J'avais prêté, c'était à ma fille.
Ben, je pense qu'il y a peut-être une référence là, à Thor. Bref, on vous parlera de Thor un peu plus tard. Thor ou à travers. Mais oui, OK. Alors, c'est bien.
Fait que c'est... Non, mais je vous le recommande. Regardez ce film-là pendant qu'il est encore sur Netflix parce que c'est un bon film. C'est vraiment le meilleur que j'ai vu cet été.
Ben écoute, superbe. Wow. Puis, tiens, François.
Ben oui, moi j'ai aussi une nouvelle concernant le réalisateur américain Richard Linklater.
Il fait ses liens, mais plus tard.
Oui, exactement. Oh, oui. Ouais. Mais lui, qu'on connaît tous un peu sans le connaître, c'est lui qui a fait entre autres Boyhood, fameux film qui a duré 12 ans à tourner, qui a fait aussi L'école du rock, aussi, avec un magnifique film avec des enfants qui jouent de la musique.
Oui,
tout à fait. Donc on le connaît quand même sans que ce soit un grand nom nécessairement. Lui, justement, le Later, c'était intéressant parce que lui, tu sais, il a pris 12 ans à faire Boyhood et là, son prochain tournage va s'étendre sur une période de 20 ans.
Ah, il aime vraiment
lui,
ça. Il aime les time-lapses.
Oui, tout à fait. Lui, il aime ça mettre des time-lapses pour ça parce qu'on pense quand même que c'est 20 ans de production, mais des fois, c'est juste qu'il attend pendant 20 ans pour tourner une scène après. Oui, il veut faire l'adaptation de la comédie musicale de Stephen Sondheim, Merrily Reroll, oui. Roll Along, alors qui raconte l'histoire d'un compositeur qui quitte Broadway pour venir produire des films à Hollywood. Il va y avoir vraiment du monde intéressant là-dedans, dont Ben Platt, Benny Feldstein et Blake Jenner. Donc, il va y avoir bien du monde là-dedans.
Ben Platt? C'est vraiment son
Ben Platt, oui, qu'on a pu voir dans Pitch Perfect.
Ben le fun, ça.
Ben Platt, qu'on a pu voir dans Pitch Perfect.
Ah ouais, bon, OK.
Oui, tout à fait. Oui, et les fans de comédie musicale pourront le savoir. Moi, je suis un fan de comédie musicale. C'est un très grand nom, évidemment, dans la comédie musicale. Donc, c'est intéressant de le voir arriver au grand écran pour une comédie musicale. Et donc, on a hâte de voir ça. 20 ans de tournage. Je mets ça, la date, sur mon calendrier.
Non, mais il est rendu à quel âge, lui-là?
Lui, il va finir ça à 79 ans, je pense.
Ah oui,
il commence à être risqué un peu, là.
Oui, ben c'est aussi risqué.
C'est aussi risqué pour la planète. Est-ce que la planète va encore exister?
Non, mais juste pour les personnages aussi, c'est toujours risqué. Parce que tu prends des gens, dans le fond, qui peuvent être même dans trentaine, mais il va se passer quelque chose avec ces gens-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Mais si jamais ils sont plus là, ça leur tente plus, ou ils décèdent, ou peu importe. Il peut y avoir beaucoup de trucs sur un 20 ans. À place d'un 12 ans, c'était correct. Le 20 ans, on pousse les limites encore plus. Ouais. Mais c'est sûr qu'au niveau du CGI, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent là-dessus.
Fait qu'au moins, il pourrait faire son montage en CGI à la fin.
Oui,
c'est correct.
Non, mais il n'y aura pas besoin de faire vieillir les gens, c'est pour ça. Fait que c'est juste pour sauver de l'argent. Fait que,
mais les techniques utilisées aujourd'hui seront peut-être un peu obsolètes aussi rendues là dans 20 ans. Si on regarde comment le cinéma a changé dans les 20 dernières années.
Tout à fait. La game va vite, comme dirait l'autre.
Hein? Ah, ben oui. Je sais pas c'est qui l'autre, mais.
Je suis d'accord avec lui.
Oui. Il y a des sages-paroles.
Exactement. Hey, merci, François.
Drôle de nom.
Merci. Voilà. On radote, ça n'a pas de sens.
Oui.
De mon côté, rapidement, j'enchaînerai. Moi non plus, j'ai pas vraiment de nouvelles comme telles, mais cet été, parce qu'on n'aura pas assez de temps pour tout dire ce qu'on voulait dire plus tard, fait que j'en prends un petit peu ici. J'ai commencé à écouter la série de Sopranos.
Oui.
Tout ça a commencé parce qu'on s'est abonné à Crave pour pouvoir, pour des raisons qu'on vous dira plus tard dans l'émission, donc qui est un équivalent de Netflix, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est ça, en ayant du temps, hein, parce que j'ai énormément de temps libre ces temps-ci, alors je me suis dit, tiens,
pourquoi pas commencer une nouvelle série?
Exactement, c'est très bien réfléchi. Plus j'y pense, plus je suis fier de ma décision. Alors, j'ai décidé d'écouter la série Les Sopranos, parce que, bon, ça faisait longtemps que j'entendais parler de cette série-là. J'ai toujours aimé les histoires un peu de mafia, ces choses-là. Et franchement, c'est fort intéressant, cette série-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis c'est pas une série typique. C'est vraiment... j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Mm-hmm. Au niveau visuel, c'est intéressant. Au niveau de l'intrigue, de l'histoire, les personnages, c'est vraiment intéressant. Et j'ai été absolument fiberglassé, comme on dit, de voir que sur Rotten Tomatoes, on parlait d'un 92 et 98% de score pour cette série-là. Ce
mais cette série-là est extrêmement reconnue comme étant une bonne série. Oui, définitivement.
En tout cas, moi, je vous confirme, c'est très bon.
C'est très bon.
Voilà, ça l'a bien vieilli.
Si vous avez Crave pour des raisons mystérieuses, ben, peut-être en profiter pour regarder cette série-là qui a énormément de saisons. Série de David Chase avec James Gandolfini, je ne sais plus trop, Don Liebman et Lauren Bracco. Bref, tout ça. On vous parle plus tard de Crave et de toutes ces belles choses dans la deuxième demi-heure de cette émission où on vous parlera de ce qu'on a fait pendant toutes ces longues vacances sur le bord de la mer qu'on a passées tous ensemble, n'est-ce pas, les amis?
Bien sûr,
sûr!
C'est un peu scolaire, ça, mais pas grave.
Et sinon, on critique plein de films pour vous dans quelques instants. À tout de suite! Une nouvelle saison de Cinébrunch, c'est aussi de nouveaux jingles. Hein?
Oh oui, tout à fait. C'est renouvellement complet.
Oui, bon, presque, là. ce que j'ai eu le temps de faire. Donc, voilà, mais c'est à mon tour. En fait, je vais vous parler d'un film que j'ai été voir. Et comment dire?
C'était aquatique.
C'était mon mot du début. On verra pourquoi bientôt ou si tout simplement mon mot était mal choisi. Donc, Ibiza, c'est une ville, hein, mais c'est aussi ce film franco-belge que j'ai été voir, réalisé par Arnaud Lemar. C'est un film qui m'a tout de suite attiré parce que, bon, Christian Clavier dans le rôle principal. Christian Clavier qu'on connaît notamment
pour Astérix.
Ben oui, pour entre Astérix autres. Dans tous c'est les vrai. Films récents. Et aussi pour les visiteurs, pour un paquet de films, une grande carrière. Très grande carrière au niveau de la comédie. Mathilde Seigner, qui joue Carole, qu'on voit dans un paquet de films, dont le film Camping. Et Camping et Ibiza ont des choses en commun, hein? Notamment un film d'été typique qui arrive un petit peu tard au Québec, mais ça, c'est une histoire de distribution, on en reviendra. Cela dit, c'est définitivement un casting qui m'a tout de suite interpellé. Mm-hmm. Ensuite, j'ai regardé la bande-annonce qu'on va écouter dans quelques instants. Et là, je me suis dit,
un deal avec lui, s'il réussit son bac, c'est lui qui choisit la destination des vacances.
Je l'ai, maman.
Ibiza, mon pote, tu vas t'éclater.
Ibiza, t'as choisi Ibiza.
Puis si tu sais foutre dans cette île de junkie.
Ibiza, bienvenidos a la fiesta.
Je suis vraiment heureuse que t'aies décidé de venir.
Tous les jours avec cette musique infecte.
Moi, j'ai pas choisi d'y aller avec Shrek. Hein.
Shrek? Maman, il est ringard.
Non!
Ce qu'il fait, l'andouille. Oh
chérie, avec Francky, c'est drôle parce qu'on se connaît de Lille il y a très très longtemps.
Tu m'as jamais raconté cette période.
Bah, t'as bien fait.
Ouais, non, non, ouais.
Alors voilà, la bande-annonce d'Ibiza. À l'audio, ça a l'air très 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 bon, honnêtement. Je suis vraiment confus. Mais visuellement, ça m'avait l'air pas à la hauteur. C'est juste tout de suite en regardant la bande-annonce, je me suis dit j'ai des doutes, mais je vais quand même y aller parce que c'est Christian Clavier, je peux pas y aller.
Oui.
Mais j'ai fait il me semble que j'ai l'impression que ça sera pas assez drôle. Puis je suis peut-être un peu parti avec cette idée préconçue là.
Pas assez drôle.
Ouais, je sentais que ce qui me donnait dans la bande-annonce était pas à la hauteur du potentiel de ce film-là.
Parce que Ibiza, c'est une ville de party, de fête.
Exactement.
C'est ça qui est drôle.
Et justement, c'est ça le contexte. Le contexte, je vais vous parler un peu des personnages, c'est que, bon, Christian Clavier joue le rôle de Philippe. Philippe, c'est un quinquagénaire, là, je suis pas sûr. En tout cas, dans la vie, il doit être un petit peu plus que ça même.
Il est un peu ringard.
Ils disent qu'il est un peu ringard. Tu sais, il est vieux jeu un peu, surtout sur ses choix musicaux, ses chants d'intérêt, il s'intéresse à l'histoire, des trucs comme ça. Mais il est poli, il est sympathique, c'est un homme pacifique. Puis il veut plaire aux enfants de Carole, parce que Carole, c'est la femme qu'il a rencontrée, qui est interprétée par Mathilde Seigner. Et il veut lui plaire, c'est un nouveau couple. Au début du film, déjà, ça fait pas longtemps qu'ils se connaissent, ils ont pas rencontré la famille de l'autre. Et bon, là, il y a Julien et Manon qui sont les enfants de Carole. Ils m'ont dit que les noms clashent entre le Québec et la France, c'est incroyable. Hein?
Oui, quand même. Oui.
Julien et Manon, c'est
pour les enfants.
Pour des enfants.
Pour les enfants,
ça.
Bref,
on en reviendra aussi. donc, le concept du film, c'est que pour s'aider à s'intégrer dans sa nouvelle belle famille, ben, Christian Clavier, alias Philippe, propose en fait que Julien, qui est le fils de sa nouvelle copine, choisisse la destination des vacances s'il réussit son bac. Bon, le bac, c'est pas tout à fait comme ici. Là. Ici, c'est faut situer l'âge. Hein. Le bac, c'est là-bas, c'est à peu près l'équivalent de la dernière année du secondaire avec les deux premières années du cégep. Mm-hmm. Ouais. Donc, on est plus jeune que l'université. Et là, évidemment, il choisit les vacances. Il choisit Ibiza. Mm-hmm. Évidemment, Philippe, il s'attendait plutôt à aller passer, je pense, des vacances dans le nord de la France tranquille. Des choses comme ça. Fait que là, il y a un gros clash familial entre les deux. OK, tu sais, il y a quelque chose à faire avec ça, j'imagine. Le problème, c'est que ça va pas vraiment plus loin que ça, cette histoire-là.
Okay,
le problème,
c'est que ça s'arrête là.
Ben, presque, là. Il y a toute une espèce d'histoire, puis je dévoile pas grand-chose parce qu'en fait,
il n'y a rien à dévoiler.
Rien vraiment à dévoiler. C'est que, bon, on apprend que le fils de Carole, en fait, Il voulait aller à Ibiza parce qu'il voulait retrouver une de ses ex ou une copine qui était là-bas à ce moment-là. Finalement, il se passe des petites aventures de voyage entre pas mal tout le monde. C'est vraiment weird, ce film-là. On dirait qu'il s'adresse à personne puis à tout le monde en même temps. C'est pas clair. Il y a des blagues qui se veulent comme aller un petit peu plus, disons, explicite. Puis finalement, ça s'avère jamais vraiment ça, le fond de la pensée.
Ils ont visé en deux cibles.
Ben, je sais pas.
Plusieurs cibles, en fait, peut-être aussi.
Ils n'ont peut-être juste pas visé à bonne place, tout court, en tout cas. J'ai peu de choses positives à dire sur ce film-là,
C'était drôle, au final?
Non, c'est ça. Franchement, non, c'était pas drôle.
Okay.
C'est ça, il y a des bons moments un peu partout, mais c'était pas à la hauteur, vraiment pas à la hauteur de ce que ces acteurs-là peuvent
fournir.
Les acteurs sont super bons pourtant.
Ouais, c'est ça.
Puis il était bon dans le film, mais le scénario est tellement pourri, il se passe tellement rien qu'il nous donnerait absolument rien. Là. Puis c'est vraiment dommage, en fait, gaspiller entre guillemets des acteurs comme
ça,
c'est pas bon.
Ce talent-là, puis ce casting-là pour ça. Puis parce que tu sais, des fois, on voit souvent des bandes-annonces qui sont tellement drôles, puis au final, ils ont tous mis le bon stock dans la bande-annonce. Mais là, au final, ça aurait pu être l'inverse, de dire justement, c'est une comédie, ils ont essayé de rien dévoiler, de pas dévoiler les gros punchs, mais au final, non, c'est un coup dans l'eau aussi, dans ce côté-là.
Il dévoile peut-être quelques petits punchs, mais peu importe qu'ils soient dans la bande-annonce ou pas, les plus gros punchs sont pas vraiment des gros punchs. Donc, ça marche juste pas.
C'est des petits jus
pas
d'alcool.
C'est
pas des punchs.
C'est des petits. C'est ça. C'est des virgin punchs.
Oui, exactement.
C'est ça. On est définitivement dans le style de film camping, film d'été. Bon, on part en vacances, puis tu sais, on.
Oui, parce que camping, il y a une histoire, mais ce qui est surtout drôle, c'est les situations. l'action qui se passe. C'est pas tant les punchs, c'est pas tant...
Ouais, mais ça, c'est des recettes typiques. Je veux dire, on tombe dans un cinéma français extrêmement stigmatisé où on a l'arrivée de personnages contradictoires. Ça vient du théâtre, là, tu sais. On le sait, on a des personnages genre, qui sont en opposition. Il se passe des moments, il y a un revirement de situation. Finalement, les personnages deviennent un peu plus amis. Il se passe d'autres choses, mais là, ils deviennent complices. C'est toujours pareil. Je veux dire, tous ces films-là, c'est toujours...
Oui, mais vraiment... ce qui est drôle, c'est les blagues. Moi, ce que je trouve la force des comédies françaises, c'est les blagues, les personnages.
Là, malheureusement, les personnages sont faibles, les blagues sont pas bonnes, sont pas très bonnes plutôt. Et le scénario, il se passe rien là-dedans. Sérieusement, tout est prévisible. Puis au bout du compte, il n'y a rien qui paye vraiment. Il n'y a pas vraiment de punch ou de revirement de situation. C'est pas drôle. C'est mal réalisé. Il y a des ellipses en sous forme de jump cut un peu partout. C'est vraiment bizarre. Comme, on dirait qu'ils n'ont juste pas pris la peine de changer de scène ou de changer même de plan de caméra pour montrer que le temps a passé. On coupe à la même place. C'est bizarre, ça fait cheap, ça fait monter là, sur le coin d'une table en vitesse. Franchement, c'est vraiment pas très bon. Il n'y a aucune bonne raison, à mon avis, d'aller voir ce film-là en ce moment. C'est un 5 sur 10 que je vous donne.
Oh.
Et c'est réalisé par Arnaud Lemort et franchement, ça manque de vie.
Oh, très bon. Oui, très bon.
Et le mort, donc aquatique parce qu'il est dans la mort?
Non, aquatique parce que Ibiza, c'est pas une île, Ibiza.
Oui, ouais. ben c'est ça que tu as dit depuis le début. Fait que si c'était pas une île,
il va falloir
revenir.
Ou aquatique parce que ça coule. Aquatique.
Oui, mais ça coule pas dans le sens de fluidité, mais dans le sens.
Non, dans le sens du bateau qui est titanique. Ouais,
dans le sens du Titanic. Exactement. Ben voilà, c'est ça. C'était ça ma critique.
Oh, que, bien joué.
Allez pas voir ça. Et c'est le moment où François nous parle du film d'ado, hein?
Non? Oh, ben, on sait pas, on sait pas.
Ça, c'était-tu 16 ans et plus?
Et non, c'était pas 16 ans et plus. Non. Ils m'ont carté pour savoir si j'étais trop vieux pour rentrer, par exemple. C'est ça.
Ouais, tu dois avoir l'air un peu louche.
Oui, j'avais l'air très, très louche, encore une fois. Ben, moi, c'est...
on va essayer d'avoir Dora.
Oui, j'ai souvent l'air louche pour les gens qui me connaissent, j'imagine. Mais je suis allé voir aussi la saison passée, Pets 2, puis c'était un peu le même principe aussi. J'étais arrivé dans une salle où il n'y avait pas grand nombre d'adultes pas accompagnés d'enfants dans cette salle.
Donc, avis à tous, François se cherche un enfant pour l'accompagner au cinéma.
Oui,
voilà. Dis de même, ça a l'air très louche quand même. Peut-être plus louche que d'arriver pas d'enfant finalement.
Effectivement.
Je pense que je vais prendre la solution pas d'enfant et me faire regarder Crush un peu.
Donc Dora, l'exploratrice.
Dora l'exploratrice. Moi, j'ai pas vraiment écouté Dora l'exploratrice pendant mon enfance.
Parce que non, on est
t'étais trop vieux peut-être. Mon enfance. Ouais. Non, mais je l'ai écouté. En fait, pour Cinébrunch, pour Cinébrunch, j'étais allé écouter. Je me suis sacrifié. J'ai pris Take a Shot for the Team.
T'as écouté quelques épisodes?
J'ai écouté un peu de Dora. L'exploratrice, ça fait... Moi, je me donne, pour essayer de voir est-ce que ça va dans l'esprit même de la série, qu'est-ce qui se passe.
Et donc, c'est une série vraiment pour jeunes enfants. Là.
Oui. Là, on parle d'une Dora qui parle aux personnes, aux jeunes, en disant « Oui, mais comment puis-je m'aider? » Puis là, il essaye de dire « Ah, pointe-moi le soleil! Ah, je n'ai pas vu le soleil! Ah! » Tu sais, bon, on est un peu dans ce truc-là, donc pour très jeunes quand même. Et là, on dit « On s'en va dans quelque chose avec des personnages, prise de vue réelle, qu'est-ce qui va se passer, c'est pour qui dans le fond au final, ce film-là, est-ce que c'est pour des gens de 4 ans, est-ce que c'est pour des gens qui ont écouté quand ils avaient 4 ans, ou est-ce que c'est pour des gens qui ont
des gens de 26 ans, de 23 ans
ou juste pour les critiques de radio, ça on le sait pas encore c'était pour qui, parce qu'en écoutant la bande-annonce qu'on vous allait faire présentement, on va aller l'écouter puis on va essayer de voir comment on se sent après avoir écouté la bande-annonce.
D'accord.
Tu connais la jungle. Ça fait partie de toi. Mais l'exploration, ce n'est pas un jeu. Si tu ne regardes pas où tu mets les pieds...
Non ! Je vais bien, Babouche.
On a fait une grande découverte, Dora.
Une cité d'or antique. Parapata. Et ta mère et moi allons prouver qu'elle existe.
Et moi aussi.
Je suis désolée, chérie, tu ne viens pas.
Quoi ?
Vivre en ville, fréquenter des jeunes de ton âge comme Diego, c'est une bonne chose.
Oui, on va t'inviter à ces fêtes, des rave parties où il y a ce genre de musique. C'est la toffe !
Bref, sois prudente, c'est ça le message.
Cousin Diego!
T'es encore plus énergique que quand t'étais petite.
Eh bien. Quand même, hein?
Mais c'est mouvementé, c'est plein d'action.
Oui, c'est mouvementé, c'est plein d'action. Tu dis quelqu'un de 4 ans, clairement, c'est peut-être pas le public cible finalement. Tu dis... Moi, regardant la bande-annonce, j'ai dit mon Dieu, ça ressemble à Jumanji, la nouvelle version qu'ils ont faite.
Avec The Rock, là?
Oui, avec The Rock, tout à fait. Je sais que tu es un partisan, un fervent amateur de The Rock. Oui. Et ça, c'est.
J'en dors plus.
Oui, oui, exactement. Donc, dans le fond, je vous raconte rapidement comment ça se passe un peu. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce film-là, en fait? C'est. Même si on commence au début quand elle était toute jeune, à peu près l'âge qu'elle avait dans les dessins animés, et après ça, on la voit grandir, et là, après ça, maintenant qu'elle a vécu et exploré la jungle en compagnie de ses parents, ben, elle fait face à la plus périlleuse de ses aventures, l'école secondaire. Alors, on va là. Mais
ensuite, c'est vraiment un film d'ado finalement.
C'est un film d'ado, mais c'est un peu weird parce qu'après ça, on retourne dans la jungle pour essayer d'aller aider à secourir ses parents qui essayent de découvrir la cité de Parapata, la cité d'or perdue. Donc, c'est un mix un peu. On voit entre autres pour les grands fans de Dora, et là je m'adresse à vous, Diego.
J'ai jamais vu cette série-là de
toute ma vie. On voit Diego aussi, qui est un autre personnage qu'on peut voir.
Oui, c'est son cousin.
C'est son cousin, tout à fait. Et là, il est dans le film. Alors, à vous intéresser, les fans de Diego aussi auront quelque chose à se mettre sous la dent. Et donc, voilà. Donc, là-dedans, il y a quand même une bonne distribution. Il y a évidemment Isabelle Moner qu'on a pu voir dans Sicario, Transformers, and Sand Family, Jeff Wahlberg, Michael Peña, Eva Longoria et plein d'autres acteurs aussi, avec un petit... du monde aussi, avec des voix seulement.
Oui, parce que c'est ça. Parce que c'est
il y a des trucs quand même animés.
Il doit y avoir des personnages qui ressemblent aux vrais acteurs.
Il y a quand même des trucs animés en 3D là-dedans. Un petit renard qui arrive et qu'on comprend pas trop si on n'a pas vu l'histoire.
C'est super, non?
Exactement.
On voit qu'elle est informée. Pourquoi c'est pas Milena qui a vu ce film-là?
Moi, je sais pas.
Non, mais j'ai regardé deux épisodes, ça m'a toujours fasciné parce que shipper, pour qu'il cesse de shipper, il fallait qu'il répète trois fois shipper, cesse de shipper.
Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent.
Shipper, cesse de shipper.
J'ai jamais dit ça. On dit ça souvent dans le film.
Ah, dans le film.
Dans le film, oui, non, pas dans la vie. T'arrives pas à l'épicerie en disant shipper, cesse de shipper. Ça va pas bien finir. On se fait sortir du magasin assez vite. Mais dans le fond, au final, c'est ça. C'est un mix entre au début, on est à l'école secondaire. Ben, plus vers le début du film, on s'en va dans l'école secondaire. C'est vraiment un film d'ado pur en disant je suis pas capable de fitter à l'intérieur de l'école. Et là, après ça, paf! On arrive dans la jungle, ils se font enlever, puis on arrive dans la jungle, et là, on arrive dans Jumanji, un peu comme dans Jumanji au début, où on est dans l'école, puis après ça, paf, ils arrivent dans le jeu.
C'est comme deux films en un.
C'est un peu un deux films en un, mais évidemment, la partie de la jungle est quand même plus prédominante que les autres. Mm. Et là, après ça, on arrive avec un style d'humour que j'ai quand même aimé. Des fois, il allait dans le deuxième degré, il se moquait un peu de ce qu'est Dora, là, comme pourquoi elle parle à la caméra, genre des affaires de même. On s'en va jusque-là. Oui, on s'en va jusque-là. Fait que des fois, je trouvais ça le fun d'aller là, puis déconstruire un peu, puis dire comme ouais, dans les films d'aventure, habituellement, il y a toujours un puzzle, puis tu fais ça, puis ça va tout régler. Fait que ça doit être ça l'affaire. Puis là, ils font, tu sais. Fait qu'ils vont dans un autre niveau, tu sais. Fait que ça, c'est quand même. C'est quand même intéressant pour ça. Sinon, évidemment, il y a des scènes, des fois, qui sont vraiment pour les gens de 4 à 6 ans, tu sais. Des fois, ils arrivent, puis là, ils sont là, ils font des bruits de pète, ou tu sais, des affaires. Fait qu'il y a des affaires, ça fait des bruits bizarres. Fait qu'il y a des affaires qui ont vraiment dit, il va y avoir du monde de 4 à 6 ans.
Fait qu'ils voulaient faire rire ces enfants-là. Il faut mettre quand même
des trucs là-dedans. Donc, il y a des petites surprises aussi. Je n'ai rien divulgué, mais pour les grands fans, allez les voir. Pour les grands fans de Dora, c'est quand même intéressant pour les nostalgiques.
Ils vont apprécier.
Il y a des petites affaires vraiment intéressantes. Donc, un film, au final, qui vont être bon plus pour les nostalgiques de Dora dans l'adolescence, mais sinon, qui vont pas plaire à des fans de 4 à 6 ans qui vont quand même apprécier généralement, et des parents qui vont accompagner vont quand même apprécier généralement. Alors je donne un 7, c'est un film correct, tu ris quand même, il y a des moments que tu fais comme ouais, mais ça me semble pas tant moi le public cible, mais après ça tu fais comme ah, il y a une correct joke après, ça passe le temps, c'est correct, un bon divertissement.
Mais François, dis-moi, est-ce qu'elle dit sac cadeau?
Oh, ça je vous laisse aller voir le film pour savoir.
Merci beaucoup François. de retour à Ciné Brunch. Plus tard dans cette émission, on aura la chance de parler de ce qu'on a fait pendant cet été-là, parce qu'évidemment, ben, on n'était pas là.
Oui, tout à fait, effectivement. Donc, on a dû faire des trucs à l'histoire.
Il n'y a pas un film qui s'appelle comme ça, ce qui s'est passé cet été-là, ou quelque chose comme ça?
Peut-être. Ben, écoute, il y a des choses, c'est tellement de films.
Il y a beaucoup de films, beaucoup trop de films, certains diraient.
Bon, en même temps.
Tout ça est relatif. Donc, mais sinon, en attendant, Mélina, tu as été voir le premier film YouTube original, film 100% produit et réalisé par, donc financé par Netflix, par YouTube. Qui a été projeté dans un cinéma, en tout cas à Sherbrooke.
Oui, un film mexicain, en fait, que j'ai vu sous-titré en français. C'est vraiment intéressant, on pourrait voir ça, certains disent « Ah, c'est la réponse de YouTube à Roma. »
Oui, que Netflix a produit. Mais là, le film s'appelle...
Muséo. Muséo, en français. Bon. Là, traduction libre de moi-même, Musée.
Le CRTC n'est pas impliqué dans cette histoire-là.
C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. Et je vais vous parler... En fait, on s'inspire de l'histoire, mais on ne raconte pas directement l'histoire. Donc, ils ont pris des libertés à un moment donné pour rendre ça plus intéressant. Mais je vais vous raconter l'histoire vraie parce que c'est une histoire quand même assez intéressante. Donc, comme je vous disais en début d'émission, ça a le rapport à un vol, mais pas n'importe lequel. Parce qu'en 1985, il y a le plus gros vol qui est commis au Mexique, au Musée national d'anthropologie. Donc, les voleurs ont dérobé plusieurs joyaux et masques qui datent de l'époque précolombienne. Donc... l'époque des Mayas et des Incas.
Oh. Et, ça, c'est vrai, là.
Ça, c'est vrai. C'est l'histoire vraie que je vous parle. Okay. C'est environ 140 joyaux qui avaient été dérobés à l'époque.
Wow.
Et ce qui est complètement fou dans l'histoire, c'est que les autres, bon, ils pensaient que c'était le crime organisé qui était derrière ça, mais non! C'était deux jeunes.
C'était Dora.
Oui, c'est ça. Ben oui, mais moi, quand j'ai entendu le mot joyau, moi, déjà, juste le fait d'utiliser le mot
alors,
joyau.
Shipper, cesse de shipper.
Oui, tout à fait. On a converti tellement de personnes qui vont l'écouter, Dora.
Diego était là-dedans. J'ai dit tout de suite quand elle a dit que c'était un film mexicain.
Sacré Diego. Oui. Non, c'est ça. Ce qui est complètement fou, en fait, c'est qu'on n'est pas loin de Dora et Diego, mais ces deux jeunes étudiants qui n'avaient même pas 20 ans, qui étudiaient la médecine vétérinaire, qui ont commis ce vol-là et ils ont retrouvé ça en 1989, 4 ans plus tard, parce que le gars, le principal, s'était confié à un narcotrafiquant. Puis quand le narcotrafiquant a été arrêté, il a dénoncé ce gars-là pour réduire sa peine. Sinon, il les aurait jamais retrouvés.
Wow. Donc, c'est bien intense, ça.
C'est vraiment un peu « Catch me if you can », si on veut. On a un mélange de « road movie », de films de voyage d'auto. Je sais pas
comment. Pas de chance, hein?
Traduction libre. c'est ça. Donc, on est un peu là-dedans. On est aussi dans l'histoire du vol parce que la façon dont ils font le vol est quand même assez sophistiquée pour pas que ça paraisse. Et ce qu'on dit, c'est que les deux jeunes hommes ont été vraiment souvent au musée pour repérer les choses qui allaient voler, pour voir comment ça fonctionnait, tout ça.
Mon Dieu, puis ça, après ça, est-ce qu'ils ont vendu dans la vraie histoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça?
Non, parce ils les ont gardés cachés dans son garde-robe parce que
ça n'a pas valu
tout
grand-chose.
Ça servait absolument rien. Oui,
c'était pour faire de la déco dans mon sous-sol.
ce qu'on explique, là, je vais vous parler un peu du film. On nous parle du personnage principal, puis le personnage principal, le jeune, un peu comme un genre de révolutionnaire, est indigné que ces joyaux-là, à une certaine époque, ont été volés, si on veut, aux communautés amérindiennes du Mexique pour être amenés dans le musée d'anthropologie.
Donc, c'était de remettre...
Donc, oui, lui, il se voyait un peu comme un Che Guevara pas quoi.
Ouais. OK, lui, il voulait défendre les intérêts du pays, on pourrait dire ça comme ça, ou l'histoire
du pays.
Oui, ou
des Amérindiens,
c'est ça,
peut-être.
Puis enlever ça du commerce, puis...
Mais il voulait les vendre, en fait.
Au début, il y avait une bonne intention.
Non, mais
c'est des joyaux.
C'est un personnage un peu... Pensez à je me souviens plus de son nom, le Frank Abagnale dans Attrape-moi si tu peux. C'est ça son nom?
Abagnale.
On est à quelques lettres proches.
Non, en tout cas, lui, on pense...
À Scrabble, on aurait des points.
DiCaprio, là.
Oui, DiCaprio. Bon, on peut penser un peu à ce personnage-là dans le sens de quelqu'un d'un peu... un peu narcissique, certainement, qui n'est pas comme le commun des mortels, disons ça comme ça, qui a des idées vraiment précises. Et pour revenir au vol qui a été commis, en fait, c'est qu'on dit que ce qu'ils ont volé avait une valeur tellement inestimable au niveau monétaire, mais aussi au niveau culturel. Et donc, personne ne voulait acheter ça parce que...
Mais c'est sûr que c'est un peu obvious que c'est toi qui l'as volé si tu l'achètes.
Oui, aussi, mais ça aurait pu se répandre sur le marché noir, mais les gens qui achètent des œuvres sur le marché noir disaient... non, ça, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. C'est vraiment...
C'est sacré, quasiment.
C'est ça, ça fait partie vraiment de l'histoire du Mexique. C'est joyeux, c'est joyaux culturels.
C'est joyaux lurons.
C'est joyaux... Donc, c'est ça, la prémisse du film. On est parti de cette histoire-là et en cours de chemin, bon, on a décidé de transformer un peu l'histoire après pour que ça reste quand même un film, pour avoir des personnages intéressants, pour avoir aussi une tension, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce film-là. Je vous ai dit en début d'émission, Jim, tu m'as demandé un mot pour décrire ce film-là.
Ouais.
Et j'ai dit « innovateur ». François m'a repris en disant « novateur ».
Bon, tout à fait, François, il faut toujours qu'il nous reprenne.
Non, mais c'est des choses qui arrivent. Hein.
Et pourquoi je disais ça, en fait? Parce que, bon, l'histoire du vol, c'est vraiment cool en tant que tel, mais c'est pas... Ben, je veux dire, oui, c'était... Mais dans ce film-là, on expérimente beaucoup. Et vraiment, au niveau des valeurs de plan, au niveau du montage, donc, un peu, j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui connaît pas tant peut-être les règles, mais qui essaye plein de trucs. Fait qu'on va avoir des super gros plans, mais...
C'est le Radiohead du cinéma latino.
Un genre de « Ouais, je viens de voir ça à l'université, on va faire un devoir, puis on va tous les essayer un par un. »
Xavier Dolan l'a fait.
Mais ça passe pour de vrai parce qu'il y a des trucs que, bon, j'étais pas convaincue, mais on pardonne au film parce qu'on est pris dedans. Et ce qui fait en sorte qu'on est pris dedans, bon, d'un, l'histoire est excellente, les acteurs sont bons. La trame musicale est très intéressante. Je sentais peut-être une inspiration de John Williams dans le sens...
Ah oui, OK, j'aurais pensé que c'était de la musique latine.
Non, non, aucune musique, aucune chanson, mais vraiment juste une trame sonore, de la musique orchestrale.
Okay.
Et on joue beaucoup avec ça. Des fois, je trouvais qu'on y allait un peu trop intense, mais on joue avec cette intensité-là de musique orchestrale, puis tout d'un coup, le silence, parce qu'ils font aucun bruit pour faire le vol. Donc, on joue avec ça. Donc, on réussit vraiment à créer des choses. Donc, c'est rafraîchissant comme film, en plus d'être super intéressant. Et je vous dirais, les acteurs sont très, très bons. On y croit vraiment. Le personnage principal m'a complètement jeté à terre. C'est interprété par...
Il était là dans la salle? Ou...
Oh, oui, il était derrière moi. Il m'a pris puis il m'a jeté à terre. Il s'appelle Gael García Bernal. Et donc,
il y a beaucoup de Garcia dans ce coin-là.
Ben, oui, c'est comme les Lopez hein. aussi, on est nombreux. Et pour ceux qui se demandent, non, je veux dire peut-être que je suis reliée avec Jennifer, mais pas à ce que je sache, du moins pas là à mes parties de Noël. maintenant que ça est assez
on
du
le
chemin...
Bon, ouais, oui, non, ça me titillait quand même depuis...
On a perdu beaucoup de d'auditeurs, là, selon ce qu'on voit, là, soudainement. Bon.
Des gens qui avaient soir.
Selon les médias sociaux...
Bref, des acteurs qui livrent des performances très, très justes. Et ça m'a donné envie de vous poser une question, en fait.
Oui.
Parce que, en fait, je vais faire un énoncé qui est le suivant. Les films inspirés d'histoires vraies sont les meilleurs ou sont meilleurs. Et là, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de ça. C'est ce que je me suis dit en terminant
de voir
le film.
J'ai envie de dire, ça dépend lesquels.
Oui, oui, c'est ça.
Mais au niveau de la crédibilité de l'histoire, au niveau de la crédibilité des personnages.
C'est sûr que quand tu pars, effectivement, d'un fait vécu, souvent, tu pars de quelque chose qui vaut la peine déjà d'être raconté. Tu sais que l'histoire est là.
Si l'histoire s'en souvient, c'est parce que c'était marquant.
Oui, exactement.
Donc, il y a quelque chose à raconter.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc, déjà là, tu pars avec un plus. Fait que même si tu te mets un pied dans la bouche après ça ou tu rates quelque chose, ben au moins, effectivement, il y a quelque chose que tu peux ressortir de ce film-là. Fait que c'est sûr que, effectivement, tu peux... C'est plus difficile de complètement rater, je pense, un film.
Peut-être, oui.
Je sais pas, honnêtement. Moi, je suis pas d'accord avec toi du tout. En fait, je te dirais que c'est plutôt le contraire. C'est extrêmement facile de rater un film historique, à mon avis.
C'est facile de rater, mais c'est difficile de complètement le rater. Dans le sens où il va quand même avoir...
Le scénario devrait, s'il n'a pas été botché, être basé sur quelque chose d'intéressant.
Exactement. Fait qu'il y a, quand même quelque chose d'intéressant. Après ça, c'est facile de mal le raconter, puis de
d'essayer
le
duer, de passer quelque chose d'éditorial un peu bizarre, louche, par rapport à ça, ou de réinventer l'histoire. Ouais. Je me souviens, la dernière saison, avant qu'on tombe en vacances et qu'on se fasse remplacer pour l'été, je me souviens qu'on avait abordé un sujet... une fois ou deux, on avait parlé de ça, ce concept-là de déformer la réalité dans un film de fiction inspiré de faits réels. Puis moi, ça m'achale encore aujourd'hui et j'attends, j'allais dire impatiemment, mais c'est faux, j'attends avec énormément de patience et même le plus longtemps possible, le fameux film sur Louis XVI, pour lequel Louis XVI sera une personne noire.
Ouais.
Puis ça s'en vient, là. Je veux dire, ça va arriver. Moi, ça me rend complètement fou, cette histoire-là. Je comprends pas comment on peut faire abstraction du racisme évident qu'il y avait à cette époque-là et de faire comme si de rien n'était, parce qu'aujourd'hui, ça paraît bien de mettre des personnes de couleur dans des rôles qui, normalement, n'en auraient pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est une insulte à ces gens-là. Maintenant,
c'est d'oublier ce qui s'est passé.
C'est d'oublier ce qui s'est passé, de faire comme si de rien n'était. Personnellement, moi, ça me choque vraiment plus que de ne pas avoir de personnes noires dans un film historique qui se passe en France ou en Angleterre. C'est, honnêtement, bon, après, c'est sûr que si tu fais un film qui se passe au Congo avec 100% des personnes blanches, c'est pas mieux.
Mm-hmm.
Mais faut être crédible dans ce qu'on fait. C'est pour ça que moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut facilement rater, surtout dans les années 2010 et plus, depuis qu'on se rend compte qu'on réinvente facilement la roue, c'est facile de se mettre le pied dans la bouche puis de rater un film historique, à mon avis. Mais après, oui, l'histoire de base est intéressante.
Oui, exactement.
Mais c'est facile de mal la raconter aussi.
Oui, c'est effectivement, comme tu amènes le côté éditorial, le côté est-ce qu'on regarde vraiment les deux côtés de la médaille, est-ce qu'on, la façon qu'on le raconte, c'est sûr qu'il y a toujours un petit côté qu'on prend pour quelqu'un, entre guillemets. Fait que des fois, il y a des histoires qui sont plus difficiles à raconter dans ce sens-là. Mais au moins, normalement, t'auras pas une histoire vide de sens.
Mais c'est ça que je... Parce que moi, c'est pas un film historique.
C'est aussi, c'est que ça te force... C'est que ça te force aussi à aller chercher plus loin que le film, tu sais. Puis ça, même si le film est raté, souvent, ça va réussir à te faire aller regarder sur Wikipédia qu'est-ce qui s'est passé sur cet événement.
Ça donne le goût d'en savoir plus. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que Mélina vient nous ramener un peu à l'ordre.
Oui, c'est parce
qu'elle parle pas
film...
de film historique, elle parle de film basé sur des faits réels, c'est ça?
Mais
c'est pas tout à fait pareil, là.
Non, c'est ça, exactement.
Pour faire la nuance.
C'est à part d'un événement, effectivement. T'sais,
fait que là, il y a beaucoup plus d'interprétations possibles.
Exactement.
Là. Ouais. On se base
là-dessus, mais on rapporte pas l'histoire telle qu'elle est.
Est-ce qu'il était vraiment un méchant? Est-ce que c'était pas un méchant? Est-ce qu'il l'a fait pour les bonnes raisons?
C'est juste pour se donner de la crédibilité puis vendre ce film-là plus facilement. Bon,
j'entends
qu'un film sur Robin des Bois qui s'appellerait pas Robin des Bois aurait moins de chances d'aller chercher un public facilement parce qu'on on comprendrait pas. OK,
mais,
on comprendrait peut-être
quand
à travers
tu
le film.
Vois, tu sais, des affaires des fois que tu dis, tu mets dans un scénario puis que si tu mets pas histoire vraie dessus, des fois, les gens vont faire « Ah, man, c'est ben trop gros. »
C'est impossible que ce soit passé pour de vrai.
Mais quand tu vois le mot histoire vraie dedans, tu fais comme « OK, c'est vrai. » On dirait qu'il y a comme un concept que tu peux pousser plus loin, peut-être.
Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vérification. Il y en a sur le super site History vs Hollywood.
Allez voir
ce site-là si vous ne connaissez pas. Mais il n'y a pas vraiment de norme qui fait que tu as le droit de dire basé sur des faits réels.
Puis le basé, des fois, est très
vague. C'est très vague.
Hein?
Puis c'est basé sur mon interprétation personnelle de comment aurait pu se passer l'histoire.
C'est ça, le pourcentage. Est-ce qu'ils ont vraiment parlé à ces gens-là?
Mais moi, c'était pas indiqué dans mon film basé sur une histoire vraie. C'est en lisant sur le film que je me suis rendu compte que c'était inspiré de ce vol-là qui a vraiment marqué le Mexique à cette époque-là.
Parce que dans ce cas-ci, on parlerait de l'inverse, une appropriation d'une histoire réelle
mais
pour
là,
les fins de gagner des concours d'originalité.
Mais là, ça veut dire encore plus de dire justement, on ne voulait pas raconter cette histoire-là, c'est juste que cette histoire-là nous a donné de créer un film qui ressemblait à ça.
Je pense qu'ils ont décidé de raconter cette histoire-là, mais dans la vraie vie, le gars a fini par juste cacher le soir même le sac contenant les joyaux dans son garde-robe.
Ça finit là.
Ça finit là jusqu'à temps qu'il se fasse dénoncer.
C'est moins glamour.
Donc, je pense que pour que le film soit un peu plus aussi action, thriller, ils ont décidé de
rajouter un petit
peu,
de pousser,
c'est compréhensible,
de pousser ça, puis de l'amener ailleurs pour que ça te fasse un film intéressant.
D'où pourquoi tu marketes pas non plus en disant on raconte histoire là, comme
exactement.
Ils vont tellement plus loin que
exactement.
Ça.
Mais je trouve le concept de j'ai l'impression, du moins c'est ça que je voulais savoir. Moi j'ai l'impression que quand on s'inspire de faits réels pour raconter une histoire, il y a une crédibilité que même le meilleur scénariste au monde ne pourrait pas donner à son univers. Et c'est surtout ça la question, en fait.
Avant même d'aller voir le film, tu pars déjà avec une prémisse de crédibilité.
Ben, c'est ça, c'est exactement.
Et ça fait en sorte que tu dis « Hey! » Je pense que quelque part dans l'inconscient, on se dit « Wow! On va aller voir de l'histoire, ça va être le fun, ça va être divertissant, sous forme de fiction. »
En plus de ça, je vais en apprendre. C'est comme si je faisais un exposé oral sur les éléphants.
Puis quand je vais aller chez le barbier, je vais avoir quelque chose à dire à mon barbier.
Exactement.
Hein, d'intéressant, sans avoir eu l'effort de lire un livre. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça.
Il y a peut-être un peu de ça.
Mais il y a une certaine crédibilité aussi, je trouve, aux personnages qui sont inspirés. Des fois, on va voir des films, ils sont super bons, mais je trouve que les personnages sont pas cohérents avec eux-mêmes, avec la psychologie. On leur donne une certaine psychologie, puis ensuite, il y a juste... pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est Harry Potter. On lui donne une psychologie, puis après ça, il fait des actions qui sont complètement dans le sens de sa psychologie. Mmh. À lui. Mm-hmm. Des actions que, en tant que lecteur, on se dit, ben voyons, on fait pas ça, c'est évident que c'est stupide.
Mais tu sais que c'est comme ça qu'il
pense. Mais
tu sais
que c'est comme ça que lui, il pense.
Ouais. C'est ça.
Donc,
mais
c'est
dans ce film-là, c'est ça?
Dans ce film-là, c'est ça. Bon. Et dans la majorité des films que j'ai vus inspirés des histoires vraies, je trouvais qu'on.
C'est peut-être plus facile.
Mais ça paraît très mal. Puis moi, dans notre. On vous le dira pas, là, mais on a une grille là, de. Quand on est un peu mal pris et qu'on sait pas trop comment coter un film, on a une petite grille là, qu'on peut s'aider, si on veut, là, à Cinébrunch, qui comprend certains points. Et là-dedans, il y a ça. Mm-hmm. Est-ce qu'on considère que l'action du personnage est cohérente par rapport à lui, mais par rapport aussi à ce que nous, dans cette situation, est-ce qu'on s'approprie le personnage, ses décisions, est-ce que ça a un sens? Si on trouve que non, pas du tout, ben, tu sais...
Est-ce que c'est cohérent avec l'univers dans lequel le personnage est aussi? Ben,
oui, exactement. Exactement. Puis, Mélina, tu te rends compte qu'on n'a pas écouté ta bande-annonce?
Hé, hey, c'est bien vrai!
C'est fou, hein?
Bon, il est peut-être un peu tard, là, mais...
Bon, on peut l'écouter, c'est en espagnol, mais...
De toute façon, la bande-annonce, c'était sur YouTube, j'imagine. Et,
oui, et le film est un film original. YouTube.
Original, fait
mais,
que...
Ça ne me dérange pas, on peut l'écouter si tu veux, mais...
Écoutons-le,
bon, on l'écoute rapidement. Donc, voilà, le film s'appelle Museo.
Exactement.
C'est où, là?
T'es là.
¡Ay! ¡Me pudiste sacar un ojo!
¡Te moviste!
Vuelves a tocar una pieza y te largas a tu casa.
Bueno, tiene que ser hoy.
Hoy es Navidad.
Mira, nos vemos a las 12, donde siempre.
¿Qué andas haciendo, Chaps?
¿A dónde vas con esas bolsas?
Buenas noches, feliz Navidad.
¿Qué te pasa? ¿No estás contento?
Ahí va.
A partir de aquí no hay marcha atrás.
Eh bien, donc la bande-annonce.
J'ai tout compris.
Oui, ben moi aussi. Alors, si vous n'avez pas vu les sous-titres, ben tant pis pour vous.
Oui, c'est ça. Fallait.
C'est la joie de la radio, ça.
Oui, exactement.
Mais on le sent un peu l'espèce d'ambiance qu'ils voulaient mettre dans la trame sonore, dans la bande-annonce. On a un peu plus de musique que dans le film, mais je trouve que ça, même juste au niveau du son, on entend quand même avec cette musique-là. À un moment donné, ça l'arrête sec.
Oui.
C'est un peu l'ambiance qu'on retrouve dans le film. Donc, pour moi, c'est un bon film. J'y donne un 8 sur 10. Je pense que ça vaut la peine de voir ça, que ce soit à la maison du cinéma ou... bon, pour l'instant, moi, j'ai pas de compte YouTube premium parce que je suis pas rendue dans ma vie. Mais pour les gens qui en ont un, qui ont décidé de payer pour pas avoir d'annonce et je sais pas quelle autre option ça donne, vous avez accès aussi à ce film-là. Et donc, je pense que c'est un bon film à voir. Mm. Il y a de l'action, c'est un peu intense, c'est intéressant, c'est captivant. Oui. Donc, c'est très fun à voir.
Et ça sera un sujet de discussion intéressant éventuellement, là, les films original d'entreprises de distribution, disons, de vidéos sur demande, qui envoient ça en salle, probablement pour gagner des prix puis participer aux différents trucs. Oui. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Mélina. Donc, 8 sur 10 pour le film Museo. Et rappelle-moi, François, c'était quoi ta note?
Moi, c'était un 7 pour
Dora. 7 sur 10. Et puis moi, j'avais donné un 5. Fait que Mélina gagne officiellement le meilleur film de la semaine.
De la semaine, oui.
Excellent. Ben merci beaucoup! Et c'est déjà rendu à notre... On est déjà rendu à notre bloc principal, à notre sujet principal de l'émission, qui est qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances?
On était où?
Oui.
Ben c'est ça, parce qu'il y a des rumeurs qui courent, de ce que j'ai compris, qu'on était à la plage, puis que François voulait absolument écouter des films, puis pendant ce temps-là, nous autres, on voulait se détendre. Moi, j'avais envie de me faire blondir les cheveux, Mélina voulait lire les Harry Potter. Bon, en tout cas, il y a plein de rumeurs qui courent à ce niveau-là.
Ah,
qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ben, probablement que ça va rester dans qu'un jour, il y aura un film basé sur ces faits-là.
On ne sait pas, puis on va s'attacher au personnage encore plus.
Sûrement. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on a fait? Puis j'ai envie de rapidement un petit tour de table là, comme ça. Là. Qu'est-ce qu'on a fait? François, t'as fait quoi, toi?
Eh mon Dieu, pourquoi ça commence par moi? Ben, je sais pas ce que j'ai fait.
Tu es en avant de moi.
Oui, c'est ça. Oui, ben, on est tous un peu avant des autres. Mais j'ai écouté quelques films, pas beaucoup quand même. J'ai essayé de prendre un petit peu. Des fois, ça prend. C'est le fun de prendre un peu de recul pour revenir après ça. Des fois, t'es trop proche. rush des films, t'en vois trop. Des fois, ça prend, c'est intéressant de faire un petit pas de recul pour essayer de se remettre à niveau un peu. J'ai écouté quelques anciens films, Histoire de jouer deux, quand même. Je me suis mis dans
le 3 était meilleur, mais bon.
Oui, ben je sais, mais c'est ça. Mais j'hésitais entre le 1 et le 3. Fait que j'ai fait une moyenne.
T'as écouté le 2.
J'ai écouté
ouais.
le 2.
Non.
C'est ça.
Non.
Mais c'est pas comme ça que ça marche.
C'est très, très raté.
C'est ça. Mais, okay. mais j'ai pas écouté le 4, malheureusement. Je me suis teasé jusqu'à la fin. Je pensais pouvoir aller le voir, puis finalement, j'ai pas encore eu le temps.
Ben, un jour.
Peut-être un jour.
Et je pense qu'il est revenu d'ailleurs au cinéma temporairement.
Ah oui, si oui, je pense que oui.
Il est disponible.
C'est le bon moment.
Mais t'es allé au cinéma aussi, François? T'es allé voir Menteur?
Oui, je suis allé voir Menteur.
On est tous allés voir Menteur.
On est tous allés voir Menteur.
Est-ce qu'on parle de Menteur?
Oui. On peut parler de Menteur.
Parlons de Menteur. Je sais que le film a été critiqué par notre collègue François Berthiaume durant nos vacances. Je pense que François, je ne me souviens plus quelle note il y avait donné.
Oui,
6.5. Oui, à peu près. C'est ça, je pense qu'il n'y a pas ri plus que ça. Puis je suis curieux. T'es Mélina, toi, comment t'as trouvé ça?
Moi, je pense que c'est un excellent film d'été. J'ai beaucoup ri, en fait. J'essaie de me souvenir parce que ça fait déjà quelques temps qu'on l'a vu.
Ouais, ouais.
Mais on compare, on aime les films québécois, je pense, à Cinébrunch. Du moins, on a pu André Jean qui était l'ultime défenseur des films québécois.
Effectivement.
Mais
on aime les films québécois, mais ils ne sont pas toujours bons.
Non, exactement.
Il ne faut pas avoir peur de le dire.
Quand il y a un bon coup, et je pense que Menteur est un bon coup, je pense que ça vaut la peine de l'encourager. Je me souviens, peut-être Jim s'en souviendra aussi, du fameux film Trip à 3.
Non, mais ça, c'était vraiment mauvais.
Qui était une mauvaise comédie. Ou l'autre film, là, l'autre film que j'avais pas aimé, là.
Ça, c'est un très bon moment.
Le film Bleu et Rouge. Oui,
le film
oui.
Bleu et Rouge.
Avec Curieux Bégin, en tout cas.
Ah, bon, mais ça, c'est pas une comédie du tout.
Non, non,
là.
C'est ça. Mais c'est pour moi, ça me faisait rire tellement j'ai pas aimé ça.
C'est pour ça que c'était pas une bonne comédie, c'était un drame.
psychologique, ouais. D'horreur psychologique.
Je pense que Menteur, c'est un bon coup. Je pense que les performances sont justes. Je pense que Louis-José Houde nous prouve encore une fois qu'il n'est pas seulement qu'un humoriste, mais qu'il a tous les talents dans ses poches. Donc, j'ai vraiment aimé ça.
En même temps, je trouve. Tu sais, Louis-José Houde s'en va quasiment dans une lignée un peu plus de comiques américains qu'on voit plus justement au cinéma. Ouais. Qu'on voit, tu sais, les comiques américains, c'est ça aussi. C'est des Jim Carrey qui font de la scène et qui font du cinéma. Puis,
c'est vrai.
Puis c'est peut-être plus rare un peu au Québec. On commence à en avoir un peu plus, là. Tu sais, on en a vu dans De parents flics, on en voit. Mais c'est le fun de voir ça aussi. Il y en a qui sont talentueux dans toute cette sphère-là. Puis je pense que pour Yacht, au final, ils sont, tu sais, quand t'es sur scène, tu fais ton
acting. Après,
c'est de l'acting aussi, tu sais.
Il y a des gens qui sont meilleurs dans un type qu'un autre.
Effectivement.
Je pense que Louis-José Houde a fait ses preuves en comédie, en tout cas. Là,
oui.
Ça, c'est clair.
Oui.
Dans les drames, j'avoue, je ne l'ai pas vraiment vu. Là. Je ne sais plus si
je ne me suis pas rendu jusque-là.
Peut-être une fois, mais non.
Mais parlons du scénario aussi, parce qu'on a un scénario typiquement d'un film québécois. Pour moi, qu'est-ce que je veux dire par typiquement, c'est que c'est pas juste moi, je pense, qui aime la comédie absurde au Québec. Dans le sens que je trouve que nos comédies, souvent, on a un humour un peu absurde. Et moi, ben, ça me fait rire à tous les coups.
Mais moi, ce que j'ai le plus aimé du scénario, c'est qu'il aurait pu rester vraiment dans ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Il aurait pu vraiment rester pendant tout le film.
C'est vrai que c'est éclaté quand même. Hein?
C'est, ben oui, parce
c'est plus
que,
éclaté que ce qu'on voit dans la bande-annonce.
Ouais, dans la bande-annonce, moi, j'avais peur que ça reste vraiment pendant 2 heures de juste faire...
Ça aurait été correct quand même.
Ça aurait été correct. Ça aurait été un bon divertissement. Mais c'est ça. J'aurais fait genre...
Ils ont poussé ça dans une espèce d'absurdité.
Là, sur le
quasiment de science-fiction.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis je m'attendais vraiment pas à ça.
Non, puis je pense que François Berthiaume m'a pas aimé ce côté-là du film.
Oui, c'est ça.
Qui était peut-être pas parfaitement réalisé.
Au niveau de la technique, peut-être.
C'est ça.
Mais au niveau...
C'était ambitieux, quand même.
Oui, c'était quand même ambitieux, mais au niveau d'une comédie d'été, pour moi, ça marche.
Oui,
c'est ça, exactement. Pour moi, ça marche. C'est un bon divertissement. Puis on a des rires, ou du moins dans la salle. Moi, j'étais allé voir la journée que c'est sorti, puis on avait des rires. C'était une petite salle, il n'y avait pas grand monde. Ben, c'était plein, évidemment, mais c'était quand même c'était une petite salle, il n'y avait pas grand monde.
Oh,
mais on se sentait presque comme dans un show d'humour, là, dans le sens où.
Le rire était contagieux.
Le rire était contagieux, c'était là.
Moi, j'ai trouvé ça très drôle, Anne.
C'était bon.
J'ai vraiment ri. Je suis allé voir un peu plus tard que toi, fait que j'avais pas la foule dans la salle pour encourager mon rire. J'avoue que je riais peut-être plus que la majorité des gens dans la salle, pour être honnête. Bon, j'étais peut-être très fatigué aussi, ça m'arrive ces temps-ci. Mais
c'est ça aussi.
Mais moi, j'ai apprécié le film, j'ai trouvé ça le fun. Puis franchement, ce genre de film, je pourrais revoir puis rire encore, je pense.
Je pense que oui.
Puis c'est court. Fait que c'était quoi? Ben, c'est court. Ouais, pas si court que ça, mais, c'est, non, mais ça passe bien, vite, ça se prend bien. Puis bon, Antoine Bertrand, Louis-José Houde, bon, c'est gagnant, là. Puis les personnages, ouais. Les personnages complètement exagérés, mais caricaturales, j'ai trouvé ça super bon, super drôle.
Puis on aurait pu s'asseoir sur un casting comme ça aussi, puis dire, anyway, on sait qu'on va vendre, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un petit peu plus de travail pour se rendre un peu plus loin. Puis dire justement, on s'en va plus loin.
Oui, bien définitivement.
Puis comparativement à ton film, justement, que tu allais voir, qui a un bon casting, qui sont arrêtés pas mal à ça.
Exactement.
À dire, on sait qu'on va vendre, puis on va s'arrêter là. Là, je pense qu'ils ont fait le travail de plus, puis il faut le dire quand ils l'ont fait.
Je je vais prendre la balle au bon sur ce que tu as dit, parce que j'ai écouté une entrevue, et je vais terminer avec ça, de Louis-José Houde et Antoine Bertrand, qui disaient qu'Antoine Bertrand est excellent dans les premières, deuxièmes prises, parce que mais que Louis-José Houde, lui, ça peut y prendre 15, 20 prises avant de réussir à vraiment être à son meilleur. Donc, Antoine Bertrand, plus ça allait, il était fatigué de faire ses prises parce que lui, il performe dans les premières prises alors que Louis-José... Mais il laissait quand même... Mais je veux dire, c'était pas la première fois qu'il collaborait avec Éric Éboulienne pour faire le... Donc, une façon de travailler aussi ensemble. Puis je pense que c'est ça, on a donné la chance d'aller vraiment chercher le meilleur
des deux. Les acteurs
ont
eu du fun, je pense.
Ça paraît que ça m'amusait. Ça paraît vraiment. Puis là, le temps nous coule entre les doigts. Rapidement, je voulais qu'on parle parce que Mélina et moi, on s'est mis en tête de se taper le... MCU.
Oui.
Alors, on va dire, c'est quoi le MCU rapidement? C'est le Marvel Cinematic Universe. On en a déjà parlé il y a très longtemps avec Louis et tout ça. En gros, c'est tout l'univers cinématique Marvel, donc les super-héros du monde de Marvel. Là-dedans, il y a des films, plus d'une vingtaine de films. Il y a des séries complètes.
Oui.
Il y a un paquet d'affaires à voir. Et on s'est dit, tiens, on va essayer d'écouter ça dans la chronologie de l'univers pour voir si on peut apprécier plus. Et je pense qu'on a vraiment réussi. Puis là, je vois le temps qui passe.
Mais
on va en reparler, en fait. On n'aura pas le choix. Ça va là un autre moment. Mais en gros, on a commencé à écouter ces séries-là puis ces films-là. On est obligé de payer un abonnement à Crave pour avoir accès à certaines séries. Et bref, tout ça sera à suivre dans un prochain épisode.
Oui, tout à fait. Le temps file.
Ben c'est ça, le temps file et non pas le temps François. Hein?
Oh, n'est-ce tout pas? À fait. Bonne
mais en tout cas, on vous en reparlera, mais c'est ça. Tu vois, c'est fou à quel point on a une mauvaise gestion de notre temps.
Parce qu'on a trop de plaisir avec les auditeurs.
Mais on est excités de vous revoir aussi, là, de vous réentendre. Oui. En fait, c'est vous qui nous entendez.
On est
excités
de parler.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est fun. Actuellement, on fait devant un mur et là, il y avait
enfin des gens qui nous écoutaient.
C'est ça. Hey, merci François Genet, merci Mélina Lopez-Nadeau. Mon nom est Jim Boulay. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Cinébrunch. À bientôt.